Bonjour. Ok. Avant de commencer, j'aimerais juste, si tu peux passer la prochaine slide, vous parler d'un blog. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, peut-être vous l'avez déjà visité, mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage vraiment à y passer un moment dessus. C'est un blog que Jean Hay a mis en place. Jean, c'est un des responsables des anciens de l'église d'Alès. Souvent, on l'invite ici à nous faire des prédications, des enseignements, des études bibliques, et c'est toujours très riche, il y a une profondeur dans ce qu'il... reçoit et de ce qu'il dit dans la parole. Et vraiment, je vous encourage à... Ça zozote. C'est bon. Sinon, je prends l'autre micro. Ouais. Voilà, donc je vous encourage vraiment à y aller. Il y a des lectures de 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les sujets. C'est vraiment super. Et pour le message de ce matin, je me suis en partie inspiré de quelques articles que Jean a écrits sur la thématique qu'on va prendre ce matin. Et donc, je me permettrai de projeter quelques citations parce que je trouve qu'elles sont super et qu'elles mettent bien en valeur ce qu'on va voir. Voilà. On vit des choses extraordinaires avec le Seigneur, parfois des choses surnaturelles. Et nous faisons aussi face à des difficultés, à la souffrance. Nous sommes témoins parfois de situations qui nous attristent, qui nous font du mal, et on ne comprend pas toujours. Dieu règne, oui. On en est certain. Nous le savons pour la plupart. Hein. Mais nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Et parfois, ça fait mal. Ça peut nous déstabiliser, ça peut nous faire douter, et ça peut nous décourager. Et j'aimerais qu'on parle ce matin des mystères qui entourent le royaume de Dieu. Du royaume de Dieu qui est déjà là et du royaume de Dieu qui est aussi à venir. Et je pense qu'on a besoin d'avoir une vision claire de cela dans les temps que nous vivons aujourd'hui pour tenir ferme dans la foi et avancer avec assurance dans la mission que Jésus nous a donnée. Donc le royaume de Dieu. Si vous avez vos Bibles, on va prendre dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 17. Et on va lire deux versets, les versets 20 et 21. Voilà, ils sont affichés, super. Merci, Ethan. Interrogé par les pharisiens, c'est Jésus qui est interrogé, pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. » On ne dira pas, « Voyez, il est ici, ou il est là. » Car voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors il y a certaines traductions qui écrivent « est au-dedans de vous ». Ça pourrait les présupposer que Jésus parle aux pharisiens en leur disant que le royaume de Dieu est au-dedans d'eux, mais ce n'est pas du tout l'idée du tout. La traduction, je veux dire plus juste, c'est « au milieu d'eux ». Voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus répond à une question des pharisiens qui voulaient savoir quand le royaume viendrait. Et dans sa réponse, je viens de le dire, nous avons une affirmation claire de Jésus. Voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand Jésus vient, le royaume vient. Quand Jésus se tient au milieu d'eux, le royaume est au milieu d'eux. Quand Jésus est arrivé, le royaume est arrivé. Et il dit aussi que ce n'est pas un royaume que l'on peut observer à un endroit précis. Je prends un exemple. Si vous voulez venir chez moi, dans mon royaume, il vous faudra prendre une longue route jusqu'à un petit village qui s'appelle Crespian, traverser une route cabossée et vous arriverez dans une belle maison d'architecte. Vous arriverez chez moi, dans mon royaume. Ici, ce n'est pas le cas. On ne dit pas « il est ici » ou « il est là ». Les pharisiens avaient une idée fausse de ce que devait être le royaume de Dieu. Ils s'attendaient à autre chose. Ils pensaient que le royaume de Dieu viendrait de façon visible, de façon puissante. Rome serait renversée, Israël serait relevé et un royaume où règne le droit et la justice serait établi. Mais le royaume de Dieu ne vise pas à frapper les regards, ni à servir des ambitions. Un peu plus tôt dans le texte, si vous le lirez si vous voulez à la maison, Jésus passe à côté de la Samarie et en allant vers Jérusalem, il y a 10 lépreux qui vont lui demander d'intervenir. Et Jésus va les guérir. Et un seul vient le remercier, et c'est un Samaritain. Il reconnaît que la puissance de Dieu est à l'œuvre en Jésus. Il se prosterne devant lui et il reçoit le salut. Et clairement, Il fait preuve de plus de clairvoyance que les pharisiens. Sa guérison était pour lui un signe évident qu'il y avait quelque chose de différent avec Jésus. Un signe que le royaume de Dieu s'était approché. Quand Jésus dit que le royaume est au milieu d'eux, il dit « il est parmi vous, parce que je suis ici ». Ce verset, il dénonce l'illusion de croire que ce royaume est toujours visible et qu'on pourrait le toucher en se rendant à tel ou tel endroit. Il n'y a pas de lieu sur terre où vous pourrez toucher le royaume de Dieu. Il n'est pas circonscrit sur terre par une frontière comme ma maison l'est de ses quatre murs. En disant « c'est approché », Jésus dit que maintenant Dieu intervient plus directement, de plus près. C'est la bonne nouvelle qui accomplit la promesse d'une alliance nouvelle. Tous me connaîtront. Sur l'initiative unilatérale de Dieu, au jour fixé, le roi se rapproche d'eux. La lumière est venue chez les siens, la parole a été faite chair, la grâce et la vérité sont venues. Cependant, si on continue de lire le passage en Luc 7, Jésus s'adresse ensuite à ses disciples et explique que la révélation ultime du Fils de l'homme et de son royaume est encore à venir. Je vous lis les versets 22 à 24. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ainsi en sera quand Jésus reviendra. » Un peu plus loin, si on prend au chapitre 19, le début de la parabole des mines, Jésus voit qu'ils arrivent près de Jérusalem, le quartier général. Et parce que plusieurs pensent toujours que le royaume de Dieu devait paraître là, il leur raconte une parabole. Et on va regarder juste les deux premiers versets pour comprendre ce qu'il veut leur dire. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. » Jésus les met en garde au travers de cette parabole de croire que le royaume est là. C'est paradoxal. Jérusalem, c'est le cœur. Plusieurs sont prêts à renverser le pouvoir en place. C'était le cas, il y en avait qui étaient prêts. À prendre Jérusalem par la force, un gouvernement juste va pouvoir être instauré. Rome va tomber. Les anges vont venir du ciel avec toute leur force et leur puissance. Un nouveau royaume va être établi. Ça y est, c'est fini. Et Jésus leur dit, un homme s'en va. Un homme de haute naissance s'en va dans un pays lointain. Ça va prendre du temps pour y aller. Et ça va prendre du temps pour y revenir. Et à son retour, il va établir son royaume. Il distribue des villes à gouverner à ses bons et fidèles serviteurs. Si vous connaissez la parole, il va donner donc des talents. Il y en a qui vont le faire fructifier. Et à ceux qui l'ont fait fructifier, quand l'homme de haut rang revient, il va distribuer des villes à gouverner. Donc le royaume de Dieu n'est pas encore là, il est à venir. Et sincèrement, des fois, j'ai hâte qu'il revienne. Ça fait déjà 2020 ans que nous l'attendons. Peut-être nous faudra-t-il attendre encore 2000 ans. Personne ne sait, mais nous devons être attentifs aux signes, nous dit l'Écriture. Donc Jésus nous dit que le royaume s'est approché, et il nous dit aussi que le royaume est à venir. En Matthieu 12, verset 28, il répond aussi à un moment donné, il dit « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Donc il est venu jusqu'à nous. Je ne comprends plus Jésus. Le royaume de Dieu est venu ou il est à venir ? La réponse, bien sûr, et je pense que pour la plupart d'entre vous, j'enfonce une porte ouverte, vous le savez, mais je pense que c'est important de nous rappeler, c'est les deux. Et Jésus appelle cela le mystère du royaume de Dieu. Matthieu 12, 28, Luc 17, 21 nous disent que le royaume de Dieu est là parce que le roi est là. Jésus vient dans l'histoire avec un grand H, avec toute puissance, avec toute la puissance du roi. Mais il avertit aussi que le royaume qu'ils attendent, tel qu'il est dépeint de façon significative dans l'Ancien Testament, n'est pas ici et qu'ils ne doivent pas penser qu'il l'est. Il est à venir, mais plus tard. Quant au signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il descendra sur les nuées. du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. C'est ce qui nous est dit dans l'Apocalypse. Ce n'est pas ce qui s'est passé à la première apparition de Jésus. C'est clairement pas ce qui s'est passé. Et c'était déroutant. Déroutant pour les personnes de l'époque. Et franchement, ça avait de quoi l'être. C'était déroutant pour Jean-Baptiste, qui est allé demander à ce qu'on pose cette question à Jésus. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» C'était déroutant pour les foules, qui à un temps voulaient le jeter du haut d'une falaise et à d'autres moments voulaient le faire roi. C'était déroutant pour Pilate. « Es-tu le roi des Juifs ?» C'était déroutant pour les disciples. Entre la crucifixion et la résurrection, ils ont fui. Ils n'ont pas compris ce qui était en train de se passer. Pierre va même sortir son épée pour défendre Jésus. Puis il va le renier trois fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce vraiment lui qui doit établir le royaume en Israël? Cette première venue du roi était la plus déroutante qui soit. Et ce paradoxe, entre le royaume de Dieu est au milieu de vous et le royaume de Dieu est à venir, d'un roi qui vient pour servir et être mis à mort, un roi qui vient pour être servi et mis à mort, et un roi qui va revenir avec puissance sur les nuées du ciel. Jésus appelle ça le mystère du royaume des cieux. Et on va voir ensemble ce que dit Jésus au sujet de ces mystères du royaume des cieux, pour que nous ne soyons pas déroutés comme les disciples ont pu l'être. Et on va prendre, si vous avez vos Bibles, on va tourner en Matthieu 13. Jésus donne plusieurs paraboles pour nous aider à saisir et à comprendre ces mystères du royaume de Dieu. Et on va en voir quelques-unes. Le royaume de Dieu est déjà là, en Jésus. Il est le plein accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Dieu règne déjà, et l'amour de Dieu est la tonalité fondamentale de ce règne. Éternellement, il est le royaume du Fils de son amour, et le royaume promis à ceux qui l'aiment. Jésus ne dit jamais que le règne lui-même grandit. C'est son effet visible qui s'agrandit. C'est son effet visible qui s'agrandit pour nous. C'est comme si vous preniez un microscope, que vous y regardiez quelque chose de très près, et puis que vous reculez la lentille, et plus vous reculez, et plus vous commencez à découvrir des choses. Et nous verrons de manière totale l'établissement du royaume de Dieu au retour de Jésus, dans un avenir plus ou moins lointain, à un jour que personne ne connaît si ce n'est Dieu. Il faut comprendre que l'Ancien Testament voit ces deux dimensions. À la fois, on a un Ésaïe 53 qui prophétise que la venue de Jésus qui vient comme un humble serviteur. Et à d'autres endroits, on a Jésus qui vient de façon glorieuse pour vaincre ses ennemis et sauver son peuple. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'Ancien Testament ne dit jamais vraiment comment ça va se passer concrètement. Alors, il va se passer ça dans un premier temps, et puis, longtemps après, il va se passer ça. Je ne peux pas dire le temps, je ne sais pas. Qu'est-ce que les disciples ont vu et entendu? Pardon, excusez-moi. Quand Jésus est venu, c'était déroutant. Voilà. Deux versets en Matthieu. « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » C'est Jésus qui parle à ses disciples. « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Qu'est-ce que les disciples ont vu et entendu, que tant de personnes ont désiré voir et entendre? Les disciples sont en présence du roi, celui que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir et ont désiré entendre. Et il est dit « Heureux sont vos yeux, heureux sont vos oreilles ». Les mystères du royaume des cieux leur ont été révélés à travers du roi qui est là, au milieu d'eux. Alors on va prendre les paraboles, si vous le voulez bien, quelques-unes. La première, c'est la parabole du semeur, vous la connaissez je pense. Un semeur sorti pour semer et quatre choses arrivent. Des grains tombent le bord du chemin et des oiseaux viennent les manger. Des grains tombent dans les endroits pierreux où il y a beaucoup de terre, le soleil vient et les grains brûlent. Des grains tombent parmi les épines qui finissent en montant par les étouffer. Et des grains tombent dans la bonne terre et donnent du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et Jésus explique la parabole un peu plus loin dans le texte. Les graines, c'est la parole du royaume, l'évangile de la bonne nouvelle qui est proclamée. Puis Jésus explique ce qui se passe pour chaque personne en fonction de la manière dont elle reçoit la parole. Et on pourrait dire, que, on pourrait presque dire, que 25% des personnes qui la reçoivent ont porté du fruit. Est-ce comme ça que le royaume de Dieu était supposé venir? 25%? N'était-il pas censé être un tremblement de terre, un cataclysme qui balaye complètement le mal sur la surface de la terre? Un premier le rejette. Un deuxième le rejette. Un troisième le rejette. Et un quatrième le reçoit et porte du fruit. Ce n'est pas comme ça que le royaume de Dieu devait venir. On pourrait se poser la question, c'est un mystère. Le mystère est que le roi vient proclamer la bonne nouvelle et que seulement quelques personnes vont la recevoir dans la bonne terre. C'est un mystère du royaume. Non, je ne l'ai pas affiché ça. En Jésus incarné, le règne divin est une semence. Donc là, c'est une citation que j'ai trouvée sur le blog de Jean, que je me permets de vous lire, mais que je trouve qui illustre bien tout cela. En Jésus incarné, le règne divin est une semence d'irrésistible puissance. Il renverse des limites. Jésus opère des résurrections, chasse les démons. Et en même temps, il accepte des limites. Jésus est fatigué, il ne change pas le monde. D'une part, le Seigneur démontre un règne flagrant. D'autre part, il prêche un règne dont les effets ne profitent pas à tous ou ne sont pas perçus, ou ne sont perçus que peu à peu. De tels contrastes ne gênent pas le cœur d'enfant, les cœurs d'enfants. On se souvient de cette parole de Jésus qui dit « Laissez venir, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » D'une part, le Seigneur démontre un règne flagrant. D'autre part, il prêche un règne dont les effets ne profitent pas à tous ou ne sont perçus que peu à peu. On va prendre la parabole de l'ivraie. On va la lire ensemble. Il leur proposa une autre parabole. Il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs « Arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Dans cette parabole, le royaume vient. Et côte à côte poussent les croyants, les fils du royaume, les enfants de Dieu, on pourrait dire, et les personnes dites du diable. Et Jésus explique au verset 37 à 43. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, livrés. Ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme qu'on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Ici, nous voyons que le mystère du royaume, à nouveau, c'est la venue en deux temps. Une première fois où tout n'est pas pleinement rétabli. L'ivraie et le blé poussent côte à côte. Et une seconde fois où la moisson vient, le temps est terminé et l'ivraie est arrachée. C'est un mystère. La parabole du grain de moutarde. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Un grain de moutarde, c'est tout petit. Le Seigneur il souligne un autre contraste ici. Le royaume vient comme un grain de moutarde, la plus petite des semences, pas comme une invasion militaire massive. Et pourtant, ce petit grain de moutarde va produire un arbre qui deviendra le lieu d'habitation pour beaucoup d'oiseaux. Un tout petit grain de moutarde, J'aime bien cette photo parce que, avec la taille de la main, ça illustre bien la taille. Le pouvoir du roi sauveur est jugé insignifiant par le monde. Mais mystère, il se révèle être un refuge pour beaucoup. Pour beaucoup. La parabole du filet. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, des pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors celle-là, elle est un peu plus... Le mystère ici est que le royaume des cieux est comparé à un filet qui rassemble des poissons. Alors je ne sais pas si vous avez déjà pêché avec un filet, mais vous vous rendrez vite compte, assez rapidement, qu'avec un filet ne permet pas de pêcher tous les poissons d'un lac ou d'une mer. Le filet récupère des poissons, mais pas tous. Et de plus, dans les poissons qui sont récupérés, certains sont de mauvais poissons et ils seront jetés au feu. Le royaume de Dieu est comparable à un filet. Collecte des poissons. Et dans ces poissons, il y en a qui seront jetés au feu. La puissance du royaume attire beaucoup de personnes. Certaines sont sauvées. Et certaines sont perdues, nous dit cette parabole. Certaines sont des croyants. Et certaines sont des hypocrites. Ou dans le langage plus jeune, certaines sont des fakes, comme une fake news. Jésus déclare en Matthieu 7, « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez le mal. » Le mystère du royaume n'est pas seulement que le royaume vient comme un grain de moutarde, ne transformant pas le monde entier en un jour, mais aussi que même avec la puissance qui accompagne la venue du royaume, parce qu'il y a une réelle puissance qui accompagne la venue du royaume, des personnes sont entraînées vers la religion plutôt que vers une foi sincère et meurent. Pourquoi ? Parce qu'elles aiment la guérison plus que la sainteté. Parce qu'elles aiment le pouvoir plus que la pureté. Parce qu'elles aiment les signes plus que la volonté de Dieu. C'est ce que nous dit ce verset. Ça doit nous faire réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Le royaume est ici, en Jésus-Christ, et le royaume est à venir. Il y a un autre accomplissement encore plus glorieux de Jésus à venir. Le royaume est semblable à un grain de moutarde. Ce que vous auriez pu imaginer, un petit grain de moutarde. Imaginez que le roi de gloire qui viendrait serait semblable à une toute petite graine. Le royaume de Dieu est comme une graine, tous ne la recevront pas dans une bonne terre. Le royaume de Dieu vient et le blé pousse côte à côte avec l'ivraie avant que la moisson finale arrive. Le royaume de Dieu est comme un filet qui ramasse des poissons de toute espèce et quand il est rempli, on le tire sur le rivage puis on s'assied. On recueille dans des vases ce qui est bon et on jette dehors ce qui est mauvais. Beaucoup de mystères. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas sauter à la conclusion que l'on peut exiger plus aujourd'hui que ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. C'est un peu dur de dire ça, je trouve. Et parce qu'il y a des bénédictions qui sont réservées pour le siècle à venir, au retour de Jésus. Quand je dis ça, je ne veux vraiment pas minimiser l'action de Jésus et ce qu'il peut faire aujourd'hui par son esprit au travers de nous et la puissance de son royaume et la réalité de son royaume qui est là. Mais le fait est, mes amis, qu'il y a toujours des guerres, qu'il y a toujours la maladie et qu'il y a toujours cette souffrance et que tout sera pleinement restauré quand Jésus reviendra et il va revenir. Et c'est notre espérance. Le royaume est déjà là et on le vit et on va voir des choses extraordinaires. Et le royaume est à venir. Il y a encore beaucoup plus à venir. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Ça, c'est notre espérance. Comme Farid nous l'a rappelé la semaine dernière, le royaume, c'est vivre la volonté de Dieu. Le royaume, c'est vivre la volonté de Dieu. Et Pierre, après avoir renié Jésus, quand il a été restauré, dans la grâce et l'amour de Jésus, Jésus n'y est pas allé par quatre chemins. Il ne lui a pas dit « ça va être super », il lui a déjà dit comment ça allait se terminer. On va mettre une ceinture à tes pieds, on va t'emmener là où tu n'as pas envie d'aller. Il faut être dans la volonté de Dieu. L'authentique puissance royale est déjà là, venue en avance sur l'accomplissement final, venue pour en donner des gages massifs, des gages qui ne remplacent pas le final, mais en stimulent l'attente. Ainsi, le salut dès notre conversion est gage de la résurrection au dernier jour, et une guérison miraculeuse maintenant est gage du corps glorieux que nous aurons alors. L'influence du royaume futur se fait déjà sentir. Et parlant de la puissance royale présente, notre Seigneur dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Et parlant de l'avènement futur du roi, il dit exactement les mêmes mots. « Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Jésus dit « Le royaume de Dieu est parmi vous » et il dit aussi « Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » C'est en effet le règne présent parmi nous qui nous fait aimer Dieu et hériter du royaume qu'il a promis. Pour conclure, j'aimerais que nous réalisions à nouveau que le royaume de Dieu s'est avancé. Il est ici par son esprit. Jésus-Christ, le roi, est assis sur le trône à côté de son Père et il règne. Le roi a tout accompli à la croix. Il a vaincu la mort et le péché pour chacun d'entre nous. Comme nous l'a rappelé David la semaine dernière, il nous a arrachés des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. La justice du roi est pour vous dès aujourd'hui, par la foi. Le pouvoir du roi revêt déjà ceux qui ont choisi de le suivre, de faire sa volonté, de lui prêter allégeance. L'esprit du roi est déjà maintenant en vous. La sainteté du roi a déjà commencé à travailler en vous. La joie et la paix du roi vous ont déjà été données. La victoire du roi sur Satan et ses puissances démoniaques lui est déjà acquise. Le don du roi, le don du Saint-Esprit, vous a été donné pour vous accompagner dans la mission que le roi vous a donnée, pour aller chercher celles et ceux qui ont été prédestinés à recevoir sa grâce et devenir enfants de Dieu, pour la gloire de son nom. Alors, fort de ce que la parole nous enseigne, j'aimerais dire, allons chercher la mesure de grâce et de puissance que le Seigneur nous accorde déjà aujourd'hui pour accomplir la mission dans laquelle il nous envoie, en nous réjouissant aussi qu'il y a plus à venir. De faire ce que Jésus nous dit en Matthieu, cherchons premièrement son royaume et sa justice, et d'oublier de chercher quoi que ce soit d'autre dans nos vies. Sortons ensemble faire des percées, conscients que le roi est là et que son esprit est là, qu'il veut agir avec puissance au travers de nous. Jésus l'a dit, les signes vous accompagneront. Et scrutons aussi son retour. On n'a jamais été plus près aujourd'hui de son retour, car il revient bientôt pour une plénitude encore plus glorieuse de son royaume. Et soit ça doit nous faire oublier tout l'intérêt des choses de ce monde, ça devrait nous faire oublier tous les soucis du quotidien. Il y a plus à venir. Et ça devrait nous stimuler pour consacrer encore plus nos vies et avancer, poussés par l'Esprit dans ce que Jésus nous envoie à faire. Amen. Merci.